On fait d'autres pubs
Ikea. Mais non, mais ça sert à rien, ils sont fermés. Au moins, bah, c'est vrai qu'il y a quand même quelques points positifs du confinement entre les revendications des profs qui sont enfin entendues, mais et les gros centres commerciaux horribles qui sont définitivement fermés, enfin définitivement.
Bah, ouais. Disons qu'il y a un peu de retard parce que la revendication des profs, je pense que c'est de ne pas faire, de ne pas rentrer à l'école en fait maintenant. Mmh.
Mais de toute façon, je sais pas si l'ironie s'entend à l'antenne, mais moi, je pense qu'il n'y a pas de, point positif possible parce que la question, c'est toujours à quel prix. Et donc, justement, pour continuer avec à quel prix on aura ces quelques petits droits en plus, enfin en plus ou en moins, enfin en tout cas, quelques petits droits encore. Le premier truc que je retenais, c'était la formation de ces équipes, ces brigades des cas contacts. Donc, qui ajoute aux effectifs de la police.
Ceux de la santé.
Ceux de la santé. Donc, on en parlait d'ailleurs, on en parlait avec quelques gens. Et du coup, le deuxième truc, c'est les transports et les déplacements. Et en gros, si tout va bien, si les Français et pas les Françaises se comportent comme il faut. Les déplacements seront autorisés à partir du 11 mai dans le rayon de 5 km autour du domicile de la personne, tout en sachant que ça a bien été précisé que au fait, beaucoup de choses allaient être décidées localement, donc par les communes et par les préfectures surtout. Et donc, au fait, moi, je reste dans le flou par rapport à cette nouvelle règle, donc son nouveau rayon de déplacement plus ou moins libre. Qui au fait se heurte aux frontières des départements. Donc je ne sais pas si le rayon de 100 personnes, il faut que ça soit dans un département ou est-ce qu'on pourra traverser les frontières des départements. Mais en tout cas, je crois que ça va encore évoluer d'ici le 11 mai. Et on se demande si ça ne va pas vers une espèce d'assignation à... une forme d'assignation à résidence un peu élargie, quoi. Et avec tout un système de fichage... en tout cas, une mesure comme ça, ça ne pourrait marcher que si les personnes seraient. Enfin, si on oblige les personnes à se balader avec leur justificatif de domicile, voire si on crée un fichier où les personnes sont officiellement assignées à un département. Donc, ça m'interroge pas mal. Concrètement, ce qu'il a dit, c'est que pour ce qui est des transports urbains, ça sera. Plutôt relancé, presque, je sais plus, il a parlé d'un pourcentage, je sais plus si c'est 70%, mais en faisant baisser la demande, et notamment, ça c'est notamment, il y a un demandant aux Français, alors le demander aux Français, c'est un euphémisme, enfin ça sonne comme un euphémisme en tout cas, donc en demandant aux Français que les transports aux horaires de pointe soient réservés à ceux qui travaillent. Donc il faudra en plus de son justificatif de domicile, il faudra peut-être se déplacer avec son contrat de travail. Donc les effectifs de la police augmentent et s'étendent vers d'autres catégories de professions, on dirait que aussi les papiers d'identité, ce qui compose l'identité d'une personne vis-à-vis aux yeux de la police et de l'État, c'est pas plus seulement ce qui est, sa carte d'identité et tout ça, mais c'est aussi son adresse et son boulot. Donc et pour ce qui est des transports interdépartementaux, donc là toujours c'est le régime de l'attestation dérogatoire de maintenant, avec moins de pour l'instant en tout cas ce qui se dessine, c'est qu'il y aura moins de prétextes, c'est-à-dire que ça sera réservé aux seules raisons familiaux et de travail. Donc toujours avec la réservation obligatoire dans les trains, y compris les trains régionaux.
Ce qui accompagne bien la fermeture des guichets, donc l'obligation d'acheter tout ça par Internet, évidemment, avec une carte bleue, etc.
Voilà, sinon il y avait plutôt des détails sur qu'est-ce qui allait ouvrir, qu'est-ce qui n'allait pas, que les petites médiathèques, bibliothèques, petits musées allaient rouvrir, mais pas les grands, pas les grands événements, festivals, etc. Pas de cérémonie sauf les cérémonies funéraires. Alors il a été dit que les cimetières allaient être de nouveau ouverts au public, mais les seuls mariages célébrés allaient pouvoir être qu'en cas d'urgence, je crois, comme ça. Et alors, un autre
c'est
note.
C'est quoi un mariage urgent?
Un mariage urgent.
Une grossesse. C'est une grossesse.
Peut-être.
Demain, on divorce.
Et donc, j'ai noté quelques petites phrases. C'est par exemple ce qu'on voit. Ah oui, avant cette petite phrase, j'ai terminé par ça. Et avant, juste un petit détail, c'est qu'il a dit qu'en gros, au fait, pour mettre en place ce programme, il n'avait pas spécialement besoin. Enfin, au fait, le gouvernement pouvait utiliser son pouvoir réglementaire sur à peu près tout, sauf sur deux points. Et pour ça, il a besoin de l'Assemblée, il a besoin qu'il y ait de légiférer là-dessus. Et donc, ce qui implique, c'est que ça sera quelque chose qui va rester. Et donc, c'est pas, les modifications législatives, étaient nécessaires dans deux domaines. C'est notamment pour permettre de tracer les contacts, donc la formation des fameuses brigades. Là où la loi doit être changée, c'est en matière d'accès aux données médicales. Sachant que, on sait que les données médicales sont déjà relativement accessibles. Mais là, ça sera encore plus accessible ou peut-être l'accès sera systématique au dossier médical. On va voir. Et donc, le deuxième domaine sur lequel il y a besoin de légiférer, c'est cette restriction de liberté de mouvement. Donc, en matière de déplacement et de transport au-delà des fameux 5 km autour du domicile de la personne. Voilà. Et donc, la petite phrase, c'est... Alors, il y en a deux. Le premier, c'est « Ce plan est à réfléchir avec tous les Français. » Trois petits points sans commentaire. Et la deuxième, c'est « Ce qu'on va rétablir, c'est un régime de liberté dans lequel nous... » Attends. J'ai du mal à lire mes notes. Donc, c'est un peu raté mon effet dramatique, là. « Ce qu'on va rétablir, c'est un régime de liberté dans lequel on devrait laisser des exceptions. » Voilà, donc c'est vive la nouvelle langue. On pense à d'autres phrases comme ça, comme la liberté, c'est l'esclavage, par exemple. Et ça fait peut-être une transition en son qu'on nous a envoyé, dont je ne sais pas plus, sauf le fait qu'il va parler d'une réforme de l'Académie française.
Moi, je voulais juste rajouter un petit truc, c'est que bon, ouais, c'est ça. Ça me questionne énormément ces restes qui vont rester dans la liberté, hein, ce qui va changer dans la loi. Et ça me fait penser à la fable de la grenouille qu'on met dans l'eau bouillante et qui saute. Par contre, quand on fait chauffer à petit feu,
elle saute plus.
Elle saute plus.
Ah ouais.
Et on peut la manger.
Bon, alors moi, je peux me dire à quoi ça... J'osais pas trop faire mon éphéméride Glock, mais du coup, vu qu'on a parlé de mariage urgent, le 29 avril 1945, il y a eu un mariage qui manifestement semblait urgent. C'était entre Madame Eva Braun et Monsieur Adolf Hitler. Ça semblait urgent parce que le lendemain, ils sont suicidés. Voilà.
Peut-être c'est l'effet du mariage.
On passe à ce son ?
Et de Oldius Marie plutôt.
En fait, on
va passer d'abord Salut à toi des Berruriers Noirs,
yes, t'as réussi. Okay.
Qu'on nous a demandé. Et après, du coup, la réforme de l'Académie française, lue par Nouche. Voilà. Et c'est parti.
Il n'y a pas d'épidémie. Restez chez vous. Le gouvernement a besoin de changer les piles des oiseaux en toute discrétion. Il n'y a pas d'épidémie, pas d'épidémie, pas d'épidémie.
Salut à toi peuple khmer, salut à toi l'algérien, salut à toi le tunisien, salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit indien, salut à toi punk iranien, salut à toi rebelle afghan, salut à toi le dissident, salut à toi le chilien, salut à toi le petit malien, salut à toi le mohican, salut à toi peuple gitan, salut
Salut à toi l'Éthiopien, salut à toi le Tchadien, salut à vous les partisans, salut à toi Choli Allemande, salut à toi le Vietnamien, salut à toi le Cambodgien, salut à toi le Japonais, salut à toi le Thaïlandais, salut à toi le Laotien, salut à toi le Coréen, salut à toi le Polonais, salut à toi l'Irlandais, salut à toi l'Européen, salut à toi le Mongolien, salut à toi le Hollandais, salut à toi le Portugais, salut à toi le Mexicain, salut à toi le Marocain, salut à toi le Libanais, salut à toi le Pakistanais, salut à toi le Philippin, salut à toi le Jamaïcain, salut à toi le Guyanais, salut à toi le Togolais, salut à toi le Guinéen, salut à toi le Guadeloupéen, salut à toi le Congolais, salut à toi le Sénégalais, salut à toi l'Afro-Cubain, salut à toi le Portoricain, salut à toi la Haute-Volta, salut à toi le Nigeria, salut à toi le Gaboni, salut à toi le vieux Ch'timi, salut à toi Che Guevara, salut au comité de soldats, salut à tous les hommes libres, salut à tous les apatrides, salut à toi la Vertaga, salut aussi à la Panda, salut à toi le punk anarchiste, salut à toi skin communiste, salut à toi le Liberia, salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le Sandiniste, salut à toi le Légendiste, salut le mouvement des jeunes arabes, salut à toi Guatemala, salut PK du contingent, salut à toi le Chotopan, salut à toi Pop Canac, salut à toi Tchécoslovaque, salut à tous les dragons, salut à toi qui est que bon, salut à toi jeune malgache, salut à toi le Pop de Bac, salut à toi qui est au violon, salut à toi les Morocons, salut à toi le Yougoslav, salut à toi le Voyou Slav, salut à toi le Salvador, salut à toi le Molodoy, salut à toi le Chinois, salut à toi le Zaïrois, salut à toi l'Espagnol, salut à toi le Ravachol, salut à toi le Hongrois, salut à toi l'Iroquois, salut aussi à tous les Gosses, des îles maudites jusqu'à l'Écosse, salut à Koutou les Azous, salut à la jeune garde rouge, salut à toi le peuple corps, salut aux filles du Crésor, salut à toi la Vache-Chérie, salut à Lorraine et Arthur, salut à toi Fox Nomad, salut à tous les Jamawas, salut à toutes les Verticoles, salut aussi à Yuri Briner, salut à toi l'handicapé, salut jeunesse du monde entier.
Mes chers compatriotes, comme l'ont constaté les études scientifiques de l'Académie française, le coronavirus se propage principalement par l'intermédiaire des postillons, ces micro-gouttelettes projetées lors d'une toux, d'un éternuement ou tout simplement lors d'une conversation. Dans ce processus, les voyelles sont innocentes, tandis que les consonnes sont coupables. Aussi, un plan de révision étalé sur 4 semaines, remettant en cause l'usage des sonorités occlusives, dites aussi sonorités explosives à juste titre, ainsi que de certaines fricatives. Semaine 1. Suppression des occlusives labiales P et B au profit de la nasale M. Conséquence ? Près de 70% des moustillons sont éliminés et de plus, on me constatait qu'ainsi, la diction gagne beaucoup en souplesse. Semaine 2. C'est au tour des occlusives dentales, D et T, remplacées par la nasale N. C'est un peu difficile, il faudra un certain nombre de mots aminés, mais une semaine 9 reins suffirent. Semaine 3. Les dernières occlusives nisnarenront, à savoir les vélaires, que sont les sons K et G nur, comme dans gna gna, gaga, remplacés par la nasale gne. Nous obtiendrons alors un langage monium le seigneurisé, ni ne vrai mermèdre ne réduire la nisnance narrière de gnanrenvin nous animerdre. Semaine 4. Mon venir, la mesure la lune rasnigne, non zisnera à éliminer le rhum, ni vrignanim non inu, F, V, S, Z, et ni vrignative chunon, F et Ch, opnel remninura la rignanive rinran, R. C'est cern homme nernigne, mais nous omnianrons alors une nignon, une ruininée ramée et nialée, ni rera la riernée, né, né, rognoron. Rire la reine ligne, rire la rang.
On en parlait des envies d'anticipation, mais je trouve ça vraiment, vraiment très drôle. Et au fait, ouais, je me dis, franchement, l'Académie française, on pourrait juste la dissoudre et puis interdire la parole, ce serait tellement plus simple.
Ah oui, c'est à moi. Oui, mais d'ailleurs, c'est une excellente transition, je n'avais pas compris que c'était à moi de parler. De Barley. Barley. bah oui, interdire la parole, ce serait pratique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a pu se voir à Toulouse, apparemment, pour une banderole qui a été affichée. En fait, il y avait deux banderoles. Et la première, c'était solidarité avec les travailleurs hospitaliers, je crois. Ou les soignantes. Et la deuxième, c'était Macronavirus, à quand la fin ? Et il se trouve que.
Très méchant. Hein,
ah oui, c'est très 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 méchant. une parole.
Vilaine parole.
Outrageante même.
Oh là 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 là.
Et qui a conduit à apparemment une des habitantes à se taper une garde à vue. Et par la suite, les autres colocataires de cette maison a aussi se faire embarque pour être convoqués à une audition. Et je crois que l'audition libre, elle était hier ou aujourd'hui. Et du coup, il y a la CGT qui a fait un appel à soutenir ce message, quoi. Macronavirus, à quand la fin ? Et ils ont fait une vidéo dans laquelle on peut voir cette banderole. Et aussi des personnes qui s'expriment par rapport au fait de se prendre une garde à vue pour ça. Et bah du coup, on peut la lancer. Vous aurez que le son, évidemment. Et c'est pour ça que j'ai dit ce qu'il y avait sur les bandes.
Et Marnie.
Les deux banderoles étaient fixées depuis un mois sur la façade de cette maison. L'une venait en soutien au personnel soignant. L'autre, à connotation politique, a poussé les policiers à intervenir. Après avoir obtenu le retrait de la banderole, les forces de l'ordre sont venues remettre à l'un des colocataires une convocation au commissariat. Finalement, la jeune femme passera 4 heures en garde à vue au motif d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Elle ressortira libre, mais de possibles convocations planent également sur ses autres colocataires.
Être complètement dans notre bon droit, hein, d'exprimer. Enfin, c'est un moyen d'exprimer notre opinion et enfin, on ne pensait pas commettre une infraction. Et je pense qu'on a été un peu pris au dépourvu quand les policiers nous ont dit qu'on n'avait clairement pas le droit d'afficher nos opinions politiques au grand jour, comme ça, sur la voie publique.
On est dans un, soi-disant, dans un pays où la liberté d'expression est présente, mais apparemment, on n'a pas le droit d'afficher
En temps de confinement, en temps où on ne peut plus aller manifester, on n'a pas le droit d'afficher une revendication, de poser une question sur comment notre pays gère une situation de crise sanitaire.
Nous sommes face à une atteinte grave et manifeste à la liberté d'expression. Le délit d'offense au chef de l'État n'existe plus depuis 2013 suite à une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme. Le parquet détourne la procédure, utilise un délit de droit commun, l'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique qui doit réunir des éléments précis comme être en présence de la personne et dans l'exercice de ses fonctions. Il utilise ce délit pour faire du renseignement et de l'intimidation. C'est proprement inacceptable.
Du Macron virus. Alors c'est tout d'un coup l'envie de tout privatiser. L'hôpital, la santé, les retraites, tout. D'enlever toutes les protections sociales. C'est une espèce de fièvre d'hypercapitalisme qui donne des frissons. Des frissons pour avoir de plus en plus d'argent, pour le placer en bourse.
Donc est-ce qu'il y a un antidote?
Alors l'antidote, c'est d'être tous ensemble. De faire converger les luttes, c'est le moyen de lutter contre le macronavirus, le seul, parce qu'il cherche ce virus à séparer les gens, individu contre individu. Voilà, le moyen de répartir les richesses, ça c'est une formidable antidote au macronavirus. Hein. C'est ce qu'il mettra par terre et qu'il fera éclater.
On enchaîne avec un morceau un peu plus péchu en big up aux Toulousaines, Toulousains.
Pour une œuvre, une passion, c'est pour les nains.
C'était Big Up de Grâce et Volupté Van Van. je vais vous lire un petit conte de Louise Michel qu'elle a écrit en 1884, parce que Louise Michel, avant de se lancer et lancer dans la lutte armée, écrivait des contes pour enfants. Il y a des êtres tellement disgraciés de la nature, tellement étranges à voir ou à entendre, que leur seul aspect est un sujet triste d'études, de tristes études pour les uns, de folles moqueries pour les autres. Plusieurs de ces êtres-là n'ont pas toujours été ainsi. Les uns ont eu quelques accidents au moral ou au physique, les autres, à force de se laisser mollement aller à la fatigue ou à la paresse, sont descendus de quelques degrés, et sur cette pente-là, il n'y a plus de raison pour qu'on s'arrête. D'autres encore, ce qui est affreux pour l'humanité, sont devenus ainsi sous la pression des persécutions. Ce n'est pas le plus grand nombre qui ont été frappés dès leur naissance. Chéchette était une pauvre femme qu'on avait toujours vue vieille et toujours vue folle. Deux mauvaises recommandations pour les petits mauvais sujets qui sont loin de respecter l'un et l'autre. La maison de Chéchette, c'était le bois. Son magasin, c'était le bois. Le nid de son enfance, l'asile de sa vieillesse, c'était toujours le bois. D'où venait-elle ? Personne n'en savait rien, ni elle non plus. La première fois qu'on l'avait vue déjà vieille, elle sortait d'un autre bois où sa mère l'avait élevée et venait de mourir. Chéchette aimait sa mère à sa manière. Elle s'en alla dans un autre village et s'y établit au milieu de la forêt. C'était une étrange créature, dernier rejeton sans doute de quelque grasse nomade. Tant que l'été durait, elle se nourrissait de fruits sauvages, et pendant l'hiver, elle avait son magasin où étaient entassés les baies rouges, des sorbiers, les faines huileuses, les glands, toutes les richesses de la forêt. Parfois, les écureuils, les sangliers, les rats visitaient son magasin, car le rocher qui lui servait d'abri était couvert largement. Si, à son retour de quelques promenades lointaines, elle ne trouvait plus rien, Chéchette recommençait ses provisions. Quand l'accident arrivait en hiver, elle allait au village et demandait du pain. Les uns avaient pitié de la pauvre folle et remplissaient largement le haillon qui lui servait de tablier ou lui donnaient d'autres vêtements. À cela, elle souhaitait dans sa langue une infinité de belles choses. Les autres se moquaient d'elle. Alors Chéchette faisait entendre un grognement fort expressif. C'était sa manière peut-être de souhaiter le mal. La nourriture qu'on lui donnait, un peu moins grossière que la sienne, lui semblait une suite de festins, tant qu'elle durait. Quelquefois, en ayant pris beaucoup pour commencer, elle s'endormait pendant longtemps à la manière des serpents et des lézards. La forme des vêtements lui était indifférente. D'homme ou de femme, peu lui importait, mais elle aimait beaucoup les garnitures, surtout quand il y avait des choses qui brillent. Les enfants méchants lui offraient parfois des vêtements ornés de grelots et d'autres choses ridicules. Mais s'ils avaient le malheur de rire, Chéchette leur jetait leur présent à la figure. Souvent même, elle devinait leurs mauvaises intentions, sans qu'ils eussent besoin de rire, car elle avait l'instinct fort développé. Ceux qui ont vu les statuettes grimaçantes du Moyen-Âge peuvent se faire une idée de Chéchette. Elle était horriblement boiteuse et tellement borne que son œil gauche avait presque disparu. Sa bouche, largement ouverte, laissait passer toutes les dents à la manière de l'orang-outan, ou du gorille. Ses mains énormes, noueuses et velues, ses larges pieds, l'épaisse crinière de cheveux roux qui descendait presque jusqu'à ses sourcils, tout en elle rappelait les plus vilains gnomes, les plus hideux singes. Cet être-là s'attachait, elle aimait comme un chien. Il est vrai qu'elle eût mordu de même. Elle ne revenait jamais de ses sympathies ni de ses antipathies. Quant aux animaux sauvages, ils n'avaient jamais attaqué Chéchette, la première sans doute pour un membre de leur famille. La prenaient sans doute pour un membre de leur famille. La personne à laquelle elle avait jusque-là témoigné le plus d'affection était une pauvre veuve, mère de trois petits-enfants. Lorsque Madeleine Germain allait ramasser du bois mort, Chéchette se trouvait toujours là pour l'aider à faire ses fagots, ou plutôt pour lui en faire d'énormes, qu'elle portait jusqu'à sa maison avec une aisance incroyable. Le bois était son domaine, elle y avait tout à fait un autre air qu'au village. Là, Chéchette semblait plutôt un être surnaturel qu'un être grotesque. Les méchants du village plaisantaient beaucoup Madeleine sur cette amitié. Ils riaient surtout lorsqu'elle laissait l'horrible vieille bercer dans ses longs bras les petits-enfants qui jouaient avec elle comme un chien fidèle. Ceux-ci n'en riaient pas moins joyeusement et Madeleine s'inquiétait fort peu des mauvais plaisants. Une nuit d'été que tout le monde dormait profondément, après les fatigues d'une chaude journée employée à travailler dans les champs, on entendit retentir le seul cri qui fit lever tout le monde à la campagne. « Au feu ! Au feu !» Pourquoi tous les autres péris qui peuvent atteindre leurs semblables laissent-ils insensibles les habitants des campagnes ? Ce serait horrible de croire que c'est un sentiment d'égoïsme, parce que dans l'insodie, chacun craint pour sa propre demeure. Toujours est-il que, souvent, des malheureux ont crié à l'aide pendant longtemps et sont morts sans secours. Cette nuit-là, comme on criait au feu, tout le monde fut immédiatement debout. La maison de Madeleine brûlait comme un flambeau. L'un de ses enfants avait, en jouant, allumé un petit feu près d'une porte et pendant la nuit, la pauvre cabane de bois et de chaume avait flambé. On eut beau faire la chaîne pour entretenir les pompes, le feu ne ralentit pas. Madeleine tenait dans ses bras deux de ses enfants et luttait en désespéré contre ceux qui voulaient l'empêcher d'aller chercher le troisième au milieu des flammes. On le croyait perdu. Tout à coup, on vit quelqu'un entrer résolument au milieu des flammes, c'était Chéchette. Elle avait vu qu'un des enfants manquait. Les charpentes calcinées croulaient avec fracas. La flamme tournoyait, superbe et triomphante, dardant ses mille langues vers le ciel. Quelques instants s'écoulèrent, Chéchette réapparut. Elle tenait l'enfant dans ses bras et le déposa évanoui devant sa mère. Elle était belle ainsi, la pauvre folle, dans cet acte de dévouement qui allait lui coûter la vie. Ses cheveux, son visage, tout son corps étaient couverts de larges brûlures. Son œil brillait d'une joie infinie. Chéchette, épuisée, tomba pour ne plus se relever. Quant à l'enfant, il revint facilement de son évanouissement car elle l'avait couvert de ses haillons et de son corps pour le garantir. Aujourd'hui encore, Madeleine et ses enfants vont souvent porter au cimetière sur l'herbe qui recouvre la pauvre folle des fleurs des bois qu'elle aimait tant. Voilà.
Il n'y en a pas un sur cent, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur cent, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi? Avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et un lapin sur cent, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Il y a un lapin sur cent, et pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien bras dessus, bras-dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.